C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Aujourd'hui, les actualités de l'agriculture biologique en Finistère avec la maison et le groupement de l'agriculture bio, MAB et GAB et notamment des petits-déj.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous aide à bien vivre en Finistère et ailleurs. Aujourd'hui, on retrouve notre partenaire, le GAB, Maison de l'agriculture biologique du Finistère. On évoque l'actualité souriante de cette agriculture qui nous nourrit sans nous nuire à notre santé ni aux autres vivants, animaux, végétaux. Une agriculture qui, contrairement à ce qu'on entend dire, pourrait nourrir le monde entier. Encore faudrait-il se mettre au travail et ne pas rester collé au vieux schéma. Mais bon, je digresse. L'actualité de la bio en Finistère, c'est les petits-déj bio à la ferme qui ont lieu le 31 mai. Alexandra Lanuzel est chargée de l'événementiel au groupement des agriculteurs bio et elle est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Et on entendra les partenaires de la bio en Finistère et de ce sujet du jour au fil de l'émission. Mais d'abord, contrairement à l'an dernier, le ciel de l'agriculture bio s'éclaircit, Alexandra, c'est ça ?
Alors, ça s'éclaircit au niveau de la consommation. On a effectivement la consommation qui repart à la hausse après plusieurs années où c'était compliqué. On a eu une baisse de consommation. On est arrivé à un palier, en fait. Et c'est vrai que du coup, les ventes ont chuté. Par contre, au niveau de la surface bio en France, c'est la première année qu'on note un déclin des surfaces bio.
Oui, parce qu'en fait, comme il y a eu une baisse de la consommation, les prix ont baissé, enfin, il y a eu un mécanisme derrière tout ça, c'est ça ?
Oui, en fait, effectivement, il y a eu une situation économique un peu tendue sur les fermes bio. Il n'y a pas eu de compensation par l'État, par des aides ou autres. Donc, ce qui fait que ça a fragilisé la santé financière des fermes et certaines ont choisi d'arrêter la bio, de repartir en conventionnel.
Comme on dit.
Bon. Il n'y a pas eu une vague de déconversion non plus parce que les personnes qui sont en bio sont des personnes convaincues des bienfaits de l'agriculture qu'ils ont choisi et voilà, il y a très peu de personnes finalement qui font marche arrière pour de l'agriculture conventionnelle, mais il y a aussi des personnes qui ont choisi d'arrêter, de changer de métier. Et puis,
qui n'ont pas forcément été reprises parce que voilà, faire reprendre une ferme, c'est toujours difficile, qu'elle soit bio ou pas.
Donc en France, on a un recul de 1,2% en surface agricole bio.
Et dans le Finistère aussi ?
Et dans le Finistère, non, on est stable.
Bon.
Voilà.
Vous avez toujours autant d'adhérents ou d'adhérentes à la maison de l'agriculture bio ? Enfin, vous n'avez pas constaté.
Non, pour nous, au niveau de notre taux d'adhésion, ça n'a pas eu de répercussions.
Et on sait quels sont les modes de production qui se portent mieux que d'autres, en bio, en tout cas ?
Alors, en Finistère, on a une majorité de personnes qui sont installées plutôt sur des systèmes laitiers ou alors sur des systèmes maraîchers. C'est vraiment les deux productions prioritaires sur notre département.
Et le prix du lait a retrouvé des couleurs parce que c'est pareil, le lait bio il se vendait au prix du conventionnel.
Oui, il y a eu une période où effectivement ça se vendait au prix du conventionnel, donc là on est sur une période un peu plus facile effectivement. Et puis sur le maraîchage, c'est beaucoup de systèmes en circuit court, donc il n'y a pas forcément d'impact imposé sur de mécanismes qui imposent une diminution du prix. Ils choisissent.
Oui, ils restent maîtres de leur prix.
C'est ça.
Et en termes de comportement d'achat, est-ce que ça s'est pas. Moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que ça s'est concentré quand même sur les magasins spécialisés, la consommation en bio, plutôt que dans les grandes surfaces où il y a du bio, non ?
Suite à la baisse de consommation, les grandes surfaces ont diminué largement leur offre en grande surface. Il y a des magasins qui avaient des rayons bio qui les ont supprimés, qui ont relégué voilà, les produits bio vraiment au fond du magasin, qui ont fait de la place pour d'autres choses. Et voilà, du coup, c'est le chien qui se mord la queue, parce que moins il y a d'offres, moins il y a d'achats.
Ouais, c'est pas revenu. Enfin, si jamais ça revient, c'est pas encore le cas, quoi.
C'est pas encore le cas. Ouais. C'est vrai que la baisse de consommation, elle a surtout eu lieu en grande surface. Et la reprise, elle a surtout lieu en magasin spécialisé et en vente directe.
Voilà. Et vente directe, justement, c'est un peu notre sujet du jour. Enfin, indirectement, en tout cas, c'est le retour des fameux petits-déj bio à la ferme qui existent depuis combien de temps ?
Depuis, alors la première année, c'était en 2005, c'était en Ille-et-Vilaine. Et à partir de 2006, les autres départements bretons ont emboîté le pas.
Et c'est né en Bretagne.
C'est né en Ille-et-Vilaine.
Ouais, voilà. D'accord. Mais ça existe dans toute la France.
Et ça existe maintenant dans toute la France.
Ah oui.
Donc cette année, il y a les Hauts-de-France qui participent, il y a Rhône-Alpes. Voilà, on est plusieurs régions à participer.
Ah, et c'est toujours tout le monde le 31 mai.
Tout le monde le 31 mai.
Oui. Donc c'est bien. Ça commence à faire à donner une visibilité. Quelle était l'idée au départ ? Parce que je crois que c'était d'ailleurs que le lait. Enfin.
Oui. Alors au départ, c'est vrai que c'est arrivé dans une période où la filière laitière bio était vraiment en grande difficulté. Et l'idée, c'était de faire un vrai coup de projecteur sur ce produit-là. Donc c'est comme ça que c'est né. Et puis, voilà, ça a traversé les années. Et notre objectif, c'est de faire découvrir l'agriculture biologique à travers un événement convivial.
Et c'est plus seulement des fermes laitières, on va le voir d'ailleurs tout de suite. Mais oui, c'est ça. Enfin, ça peut être n'importe quelle ferme bio, en fait.
Oui.
Et même des fermes un peu spéciales. Enfin bon, je ne sais pas comment vous faites votre recrutement d'ailleurs pour cette manifestation. Vous lancez un appel puis...
On lance un appel. Voilà, il faut que ce soit des fermes bio, forcément. et puis...
Des adhérents aussi.
Des adhérents, ouais. Des fermes qui aient la capacité d'accueillir du monde. Enfin, il faut avoir de la place. Au cas où il y ait de la pluie, mais il n'y en a jamais.
Mais non, bien sûr que non, le 31 mai, quelle idée.
voilà, il faut être en capacité de recruter une équipe de bénévoles pour assurer le service des produits. Et puis c'est vrai que ça demande un petit peu de temps aux fermes organisatrices, donc il faut être prêt à ça.
Parce qu'il s'agit bien sûr de proposer des petits-déj, notamment, enfin, pas seulement.
Pas seulement.
Ouais.
L'idée, c'est aussi que les gens puissent visiter la ferme. Et puis, il y a bien souvent des animations qui sont proposées en parallèle pour donner un côté festif à l'événement.
Et alors, on va voir ça tout de suite avec justement l'une des fermes qui participent en Finistère. Alors, il y en a quatre cette année, c'est ça ?
Il y en a quatre.
Bon, il faudra s'en contenter. Hein. Elles sont à peu près bien réparties d'ailleurs, nord-sud, hein,
oui.
Je crois. Et là, on commence par le nord avec une ferme qui a déjà participé la saison dernière. Et donc, on a interviewé en amont un de ses encadrants techniques de cette ferme qui s'appelle Le Jardin de Prélude et qui est située donc à Guipava.
Le Jardin de Prélude, on est une ferme maraîchère bio qui fait 3 hectares. On est situé zone de Kergaradec à Guipava, donc c'est juste à côté de Brest. Hein. Du coup, on travaille tout en bio, tous nos produits sont locaux, produits sur place. On respecte les saisons, pas de produits phytosanitaires, une rotation des cultures et on travaille toujours en pleine terre. Notre particularité, c'est qu'on est une association donc, qui a été créée en 1995 pour répondre à des besoins d'accompagnement professionnel et social des personnes éloignées de l'emploi.
Ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On est une structure d'insertion par l'activité économique. L'idée, c'est que les salariés qui travaillent ici bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel. Et donc, c'est des personnes qui sont suivies par une conseillère d'insertion qui est là aussi pour veiller à voir, pour lever des freins éventuellement, des problématiques autour du logement, du permis, du manque de formation. L'objectif, c'est de favoriser l'accès à l'emploi par une situation de travail. Et donc, on se considère un peu comme une étape dans le parcours vers un emploi durable.
Combien de personnes travaillent en tout, à la fois de votre structure, enfin de l'association Jardin de Prélude, et des personnes accompagnées ?
Au niveau des salariés en insertion, ils sont une quinzaine. Après, au niveau de l'association, on a aussi les bureaux qui sont là. Donc on est nettement plus. Hein.
Et les personnes accompagnées, combien en même temps en tout cas ?
Alors en même temps, c'est une quinzaine de salariés qui travaillent entre 6 mois et 2 ans. Donc c'est des contrats renouvelables en fait, c'est ce qu'on appelle des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion.
c'est les gens qui sont, bon, enfin, de fait, vous les formez au maraîchage, je suppose, mais ils ne sont pas forcément destinés à travailler après dans le maraîchage.
Non, pas du tout. Ouais. Ce n'est pas du tout un prérequis, en fait. Ce qui est important, c'est qu'ils soient motivés. Donc, on a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé, la terre, qui viennent là.
Et est-ce que ça déclenche des vocations ? Est-ce que vous constatez que parmi les gens qui sont passés chez vous, il y a des gens qui sont restés dans l'agriculture, dans le maraîchage ?
Ouais. Ça peut créer des vocations. Après, ce n'est pas l'objectif et je dirais que c'est vraiment une minorité. Mais ouais, on a des personnes qui sont parties en formation, par exemple à Kerlivert ou à l'IVEO à Blesneux. On a aussi quelques salariés qui se sont installés comme maraîchers. Mais c'est vraiment des exceptions. On a aussi certains qui deviennent encadrants techniques, pédagogiques et sociales par la suite.
Et les profils finalement de ces personnes, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a un profil type ou pas peut-être ?
Le profil type, je dirais que c'est éloigné de l'emploi. Après, on a vraiment des profils très différents. Ça peut être autant pour des difficultés avec le français que pour un parcours de vie un peu cabossé, je dirais. On a des personnes aussi qui se réinsèrent dans la société après un séjour en prison. Vraiment, on a vraiment toute forme de profils différents.
Peut-être quand même assez jeune, parce que enfin, le maraîchage, c'est physique.
Ouais, je dirais qu'on n'a pas de seniors. Mis à part ça, on a quand même tout âge différent.
Qu'est-ce que vous produisez comme légumes et comment vous distribuez ?
Alors, on produit beaucoup de légumes. Hein. On a à peu près 90 variétés différentes en comptant les aromates. Donc, c'est 90 qui ne sont pas en même temps, hein, c'est au fil des saisons. Mais c'est vrai que pour ce type d'exploitation, on a quand même une production très variée. On a un petit peu de fruits aussi, mais c'est principalement des légumes. Alors, on distribue majoritairement par un système de panier qui change de composition chaque semaine. On livre une douzaine de points de dépôt. On fait plus d'une centaine de paniers hein, par semaine. Donc les points de dépôt, c'est sur Brest et puis son agglomération. Donc nos clients sont des adhérents annuels qui choisissent d'avoir un panier chaque semaine ou tous les 15 jours. Alors on a quand même un peu de flexibilité aussi qui permet de reporter des paniers pendant les vacances, par exemple. Et nous, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un soutien aussi pour permettre de mieux planifier nos cultures, d'être plus précis. Et c'est aussi pour ça qu'on peut produire une plus grande variété, quoi.
Oui, un peu comme une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, en fait.
Oui, tout à fait.
AMAP. Pourquoi est-ce que vous participez ? Alors, je crois que c'est la deuxième année que vous participez au Petit Déj Bio.
Oui, bah, l'idée, c'est de nous faire connaître, hein, montrer qu'on existe, gagner en visibilité. On a beau être un lieu qui touche la ville, on est quand même isolé, on est au fond d'une allée. C'est vraiment un bel endroit à plein de charme, mais qui est presque trop bien caché. Donc l'idée, c'est de dire « youhou, on existe ». Quoi. Et on a aussi vraiment envie de proposer des événements conviviaux chaque année, de présenter à un maximum de personnes notre travail, de sensibiliser à l'agriculture biologique, de créer du lien, quoi.
Qu'est-ce que vous proposez cette année pour les petits-déj ?
Alors cette année pour les petits-déj, on va avoir des crêpes et puis bien sûr tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner réussi, hein, des jus de fruits, du pain, des céréales, yaourts et puis des boissons chaudes. Hein, et l'idée après, au niveau de tout ce qui va être animation, on va avoir un petit marché avec nos produits. On a aussi une pépiniériste biologique qui sera là pour vendre des plantes légumes, des aromatiques, des fleurs comestibles. On a contacté aussi d'autres associations. On est encore un petit peu en attente de validation, mais on espère qu'on sera plus nombreux à proposer des choses très variées. Sinon, on organise des visites guidées de l'exploitation. Et puis, toutes sortes de jeux pédagogiques autour de l'utilisation de nos sens pour reconnaître les végétaux. On pourra tester ses connaissances aussi sur les insectes, sur la reconnaissance des oiseaux, apprendre à fabriquer un compost équilibré. Et voilà, et puis l'idée, c'est de bien manger, surtout avec des bons produits du coin, des produits bio. Et puis voilà, d'avoir des temps d'échange, de conversation autour de la nature, de l'agriculture durable, des initiatives sociales et solidaires.
Si jamais vous venez annoncer d'autres événements en plus des petits-déj, donc on y est ?
Ben, on organise aussi des visites guidées tous les premiers mercredis de chaque mois, où voilà, à 14h... quelqu'un est là pour vous faire visiter l'exploitation et puis voilà, vous en apprendre plus et répondre à vos questions.
Voilà, donc c'était Eric Suignard qui est encadrant technique, entre autres, hein, au Jardin de Prélude, qui est donc à la fois une ferme maraîchère et une association d'insertion par l'activité économique et qui participe au petit déj bio à la ferme qui ont lieu le 31 mai. Et avec nous, toujours dans l'EM sur Transistor, il y a Alexandra Lanuzel qui est chargée de l'événementiel au groupement des agriculteurs bio et donc qui présente cette édition 2026 des petits déj. Donc on a dit, il y a 4 fermes dans le Finistère qui participent. Il y a aussi une à Concarneau.
Il y a une ferme maraîchère à Concarneau, le Jardin de l'Eau-Christ.
Ils ont une particularité, eux, non ?
Ils ont déjà fait les petits-déj plusieurs fois. C'est des habitués. Donc, une particularité, bah, une ferme maraîchère avec aussi plantation de kiwis en cours. Voilà, donc là, l'objectif, toujours pareil, faire découvrir comment est-ce qu'on cultive des légumes en bio.
Et c'est pas parce que c'est des fermes maraîchères qu'on aura de la soupe au petit déjeuner. Hein. Ça sera des petits déjeuners assez classiques quand même. Hein.
C'est ça, il y aura des fraises.
Ah oui, déjà, bah oui, c'est vrai, c'est la saison là.
Ouais. Il y aura des fraises et puis bah, c'est un petit déjeuner bio et local. Donc par exemple, bah, le jus de fruits, ça sera du jus de pomme.
C'est pas forcément produit à la ferme, c'est ça. Enfin, les yaourts du Jardin de Prélude, j'imagine, ne sont pas produits au Jardin de Prélude.
Voilà. On va chercher les produits au plus proche. Donc, on n'a pas besoin d'aller très très loin en général, parce que c'est vrai que le maillage finistérien est quand même assez dense. On a quand même plus de 1100 fermes aujourd'hui. Donc, on a toujours la possibilité d'aller trouver des produits bio pas loin de chez soi. Et c'est ce qu'on fait pour les petits déj bio à la ferme, pour que les gens puissent aussi après les retrouver facilement après l'événement. Donc là, à l'Eau-Christ, effectivement, on aura sans doute les fraises de la ferme, si on a à ce moment-là, parce qu'on voilà, on, en fonction des saisons, bah, c'est assez variable le moment où arrivent les fraises, vu qu'elles sont cultivées en pleine terre, sous serre non chauffée. On a moins d'emprise sur le résultat.
Et puis des variétés, ça dépend aussi.
Voilà.
Mm-hmm. Et la ferme de Saint-Urien
et
aussi.
Et la ferme de Saint-Urien est une ferme qui a des vaches laitières et des volailles de chair.
Bon, c'est pareil, il n'y aura pas de poulet au petit-déj.
Non.
Sans doute pas. Des œufs peut-être.
Mais on aura le lait de la ferme. Voilà, et puis pareil, des produits des voisins.
C'est une ferme qui transforme celle de Saint-Urien
non, elle vend. Alors, elle ne transforme pas son lait, elle aucune vend sa volaille en
ouais,
direct, par contre.
Aucune ne transforme, en fait, d'ailleurs, dans les 4 qui participent cette année. Hein.
Non.
Ouais. Mais ils ont d'autres atouts, et notamment, ben, il y a aussi, la plus proche de nous, c'est celle de Trégarvan, c'est la ferme de l'Aubaine. Et alors, c'est aussi une ferme un peu spéciale que notre reporter Nathan Baer avait suivi. Il avait suivi la fermière Béatrice Golem.
On est à la ferme pédagogique de l'Aubaine. Comment ça vous est venu, cette idée de faire une ferme pédagogique?
Alors ça remonte à 8 ans. J'étais à Tsem en maternelle et on visitait la ferme pédagogique de Châteaulin, le Vieux-Bourg. Il y avait des petits soucis avec les cochons d'Inde. Enfin, les personnes en situation de handicap avaient délaissé 2 petits. En fait, je les ai pris sous mon aile, ces petits. Et je les ai ramenés à l'école avec moi. Et le temps de pouvoir les ramener dans ma maison, ils sont restés en classe 2 jours. Et on avait une petite fille de 2 ans qui ne parlait pas. Et en fait, elle s'est mise à parler aux cochons d'Inde. Et du coup, m'est venue l'idée d'inclure les animaux en classe. Donc là, du coup, j'ai mes poules. Donc avec Raymond le coq, qui est un coq brahma, c'est le plus gros coq du monde. Avec ses copines, Gisèle et Lucienne. Donc c'est des grosses poules Brahma aussi. Puis vous avez la courte patte Poulka, c'est la plus petite poule du monde. Et après on a Aldo, le coq Padoue, et lui il a une copine qui va pas tarder à arriver. Donc moi j'ai fait 2 formations, une formation prévention risque et morsure pour montrer à la municipalité de Châteaulin que ben, c'était possible de faire rentrer des animaux à l'école et que les animaux pouvaient apporter beaucoup aux enfants. Donc j'ai fait l'étape à ce moment-là sur la ville de Châteaulin avec ma chienne Prune. Et effectivement, il s'est passé plein de petites choses, bien ou pas bien. Enfin, bien oui, difficile à assimiler pour moi parce qu'en fait, les enfants racontaient leur vie aux chiens et il y a des fois, c'était pas très rigolo, quoi. Donc pour les enfants, ben, ça leur a fait du bien. Moi, eh ben, il a fallu que j'apprenne à évacuer tout ça sans que ça me touche personnellement. Et puis ma chienne aussi, parce que nos animaux, ils prennent aussi beaucoup d'affect. Et donc après, j'ai fait la lecture avec le chien pour redonner la formation « Lire avec le chien » pour redonner l'audace aux enfants de prendre la parole à voix haute. Donc l'idée pour l'enfant qui lit, c'est d'endormir le chien. Et pour l'auditoire, c'est de regarder le chien qui s'endort. Et l'enfant qui lit, en fait, même s'il fait des bêtises ou qu'il prononce pas bien les mots, ou que... Enfin, la chienne, elle sait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle doit s'endormir. Donc, du coup, elle s'endort et c'est gagné, en fait. L'enfant, il a lu son histoire, l'auditoire a écouté et Prune, elle a endormi. Je suis intervenue dans quelques bibliothèques et puis j'interviens aussi en prévention risque et morsure dans les centres de loisirs. Et puis après... Eh ben, formation de médiation par l'animal, parce que ça va de soi, forcément, ça découle. Et donc, en octobre 2023, je me suis inscrite sur une formation en ligne. Ça a duré 2 mois et demi, et j'ai fini major de ma promotion. Et ensuite, c'est enchaîné de trouver le lieu ici. C'est arrivé en même temps. Je me suis inscrite à la formation le 2 octobre et le 4 octobre, on nous proposait la ferme ici. Donc, enfin, ça s'est aligné. J'ai poursuivi ma formation de médiation. Mon mari, lui, est parti sur l'installation chef d'exploitation en vache laitière. Et moi, je suis restée en visitant ici et je me suis dit, c'est le lieu. Parce qu'on a une salle déjà pour accueillir, donc on est à l'abri. Quand il pleut, on peut quand même venir à la ferme. Et si on a un problème sanitaire sur notre exploitation laitière, on peut quand même ouvrir la ferme. Okay. C'est-à-dire qu'on pourra quand même voir les chevaux, on pourra quand même voir les brebis, on pourra quand même voir les chèvres, les lapins, les poules. Donc s'il y a un souci sanitaire sur notre exploitation laitière, on peut quand même venir visiter la ferme de l'Aubaine.
On dit que allez-y quoi, en liberté, de toute façon il n'y a rien qui peut arriver en face.
Mais oui.
On travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, mais comme on est passionné, qu'on aime ça, moi j'ai pas l'impression d'aller au travail. C'est pas beau de dire ça, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de transmettre une passion. Et ce que je veux à la ferme pédagogique de l'Aubaine, c'est que les gens se ressentent sur eux-mêmes et sur la nature. Et qu'on prenne le temps, qu'on laisse les animaux venir à nous et non courir derrière les animaux comme on court derrière le temps quand on travaille. C'est vraiment se poser, prendre le temps, écouter ce que je raconte. En fait, il n'y a pas de visite libre à la ferme pédagogique de l'Aubaine. On doit réserver. On doit réserver parce que c'est une visite guidée. Et des fois, il se passe des choses avec des animaux et on va passer peut-être 1h30 de la visite avec les lapins, les poules et les cochons d'Inde. Et les chevaux, les vaches, ça va pas intéresser la personne qui vient. Alors que des fois, on va passer 1 heure avec les chevaux et on va vite fait passer sur le reste. Enfin, voilà, c'est... Moi, je laisse les gens venir découvrir et choisir avec qui ils se sentent bien.
Ok.
Voilà. Et pour les animaux, pareil. S'ils ont pas envie... Il y a des jours, on n'a pas envie, nous. Donc, pourquoi forcer les animaux à venir, hein? Donc, c'est des fois, c'est des alchimies du moment. C'est jamais la même chose. Jamais. Depuis qu'on est ouvert, depuis le 1er octobre, tous les jours, c'est une journée différente.
On a un petit veau de 4 jours. Son nombril n'est pas encore tombé. Donc voilà, petit garçon. Donc il ne va pas rester sur la ferme parce qu'on ne garde pas les mâles. Donc il va partir en élevage à 15 jours à peu près. 15 jours, 3 semaines. Après, quand ils sont sympas, on les garde un peu plus longtemps. Et donc ici, après, on a nos dernières de l'année 2025. Donc du coup, il y a Adélaïde et...
Bon, là, c'est la ferme de l'Aubaine à Trégarvon qui participe au petit-déj bio à la ferme organisé par le groupement des agriculteurs bio du Finistère depuis... ces petits-déj, c'est depuis des années. C'est depuis 20 ans, en fait, plus de 20 ans. Et Alexandra Lanuzel, qui est chargée d'événementiel du GAB et qui coordonne tout ça. La ferme de l'Aubaine, qu'est-ce qu'ils proposent, d'ailleurs, pour les petits-déj, le 31 mai?
Alors, il y aura la visite de la ferme, la possibilité de faire une petite rando autour de la ferme. Il y aura des jeux en bois et c'est pas encore sûr, mais il y aura peut-être un loto-bouze.
Génial. C'est quand on attend que les vaches se placent sur une case. Et
on quadrille un terrain. Ouais.
Ça, c'est drôle. Il faut être patient, ceci dit.
C'est ça. Mais on a 3 heures devant nous.
Oui, donc. C'est ça. Oui, donc voilà. Alors, les infos pratiques. Donc là, c'est le 31 mai. Voilà,
dimanche 31 mai.
C'est de quelle heure à quelle heure?
C'est de 9h à midi.
Bon. Il faut s'inscrire impérativement.
Il vaut vraiment mieux s'inscrire.
Mmh. C'est rapidement complet en général, quoi.
C'est assez rapidement complet.
Ça coûte toujours le même prix d'une ferme à l'autre ou c'est...
Alors, c'est le même prix à chaque endroit, effectivement. Donc, c'est 8 euros pour les adultes, 4 euros en tarif réduit, donc demandeurs d'emploi, les jeunes, et 3 euros pour les enfants.
Et bon, ça fait le plein chaque année. Enfin, y a pas de, voilà, y a pas de, on n'a pas de mal à faire le plein. Et d'ailleurs, les bénéfices, enfin, je ne sais pas s'il y a des bénéfices. En fait, il n'y a pas de bénéfices, peut-être.
En fait, il n'y a pas de bénéfices.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut acheter le manger. Puis, il faut faire appel à des bénévoles pour organiser. C'est
oui,
ça.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de bénéfices. On essaye de proposer un tarif voilà, qui soit abordable. Donc, c'est vrai que le tarif a augmenté depuis 2005. Hein, on s'est adapté. Mais on essaye de rester sur quelque chose qui est abordable. C'est un événement familial, donc voilà, abordable pour les familles. Ce qui fait qu'effectivement, bah, quand on a payé les produits, le temps de préparation, voilà, on arrive à... C'est, pour nous, c'est vraiment une opération de communication.
C'est ça. Et donc, on va sur le site internet de la Bio en Finistère, c'est ça
Sur le site Fête du lait bio.
Fête du lait bio, voilà, parce que c'était le premier nom de ces petits-déj bio à la ferme. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de ce LEM. On pourra réécouter cette émission sur le site internet de la radio et puis on pourra réécouter ici le reportage sur la ferme de l'Aubaine plus en longueur, puisqu'il avait duré davantage. Merci, au revoir.